France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Julien Moulet. Pendant que les négociateurs s'activent pour obtenir un cessez-le-feu en Ukraine, la nation est déjà transformée par 4 ans de guerre. La nation et son sol, ses sous-sols, ses eaux, ses forêts. Les conséquences de la guerre sur l'environnement, un préjudice à long terme.
Tout le pétrole va dans l'eau et bientôt il va se retrouver dans la terre, dans les poissons, jusqu'à la mer. C'est la catastrophe. Regardez dans les rues alentour. Il y a des résidus partout.
Le monde entier connaîtra ce crime de guerre russe, le crime d'écocide. Cette destruction délibérée du barrage et de la centrale par les occupants russes est une bombe environnementale de destruction massive. Dans l'intérêt de sa propre sécurité, le monde doit maintenant montrer que la Russie ne s'en sortira pas en semant une telle terreur.
Le monde n'a jamais connu des crimes environnementaux d'une telle ampleur. L'air, le sol, les eaux marines, les eaux souterraines et les eaux de surface ont tous été touchés. Et l'impact est énorme. Si la guerre se limite au territoire ukrainien, les crimes environnementaux ont des conséquences au-delà de ce territoire.
Les bombardements, leurs bouquets d'explosions, puis leur fumée qui s'élève grisélante sur l'horizon des forêts ukrainiennes. Les bombardements ne font pas que retoucher le paysage sans retour, comme écrivait Julien Gracq. Ils sèment la désolation, des arbres sans vie, des nuées de feuilles, des animaux morts sur le coup, des cours d'eau infestés de poisons de toutes sortes. La seule destruction en juin 2023 du barrage de Kakhova a inondé des régions entières, tué plus de 11 000 poissons, détruit 11 300 hectares de forêt et privée d'eau potable près d'un million de personnes. En novembre dernier, la délégation ukrainienne envoyée au Brésil pour la COP30 brandissait la facture devant la Russie, demandait 37 milliards d'euros de compensation climatique, au titre cette fois des émissions de CO2 provoquées par la guerre, par les incendies, la destruction des puits de carbone, l'usage de millions de tonnes de carburant. Tout cela a fait l'objet de calculs pour exiger un dédommagement en bonne et due forme. Cette demande reste symbolique, rien n'oblige la Russie à payer. Elle n'en a d'ailleurs pas manifesté la moindre intention. Cela ne s'est jamais fait du reste dans aucune guerre. Mais Kiev compte parvenir à ses fins et a entrepris pour cela plusieurs démarches politiques et judiciaires. On en parle avec nos invités ce matin. Bonjour Marin Coudreau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, chercheur associé au Centre d'études russes caucasiennes, est-européennes et centre-asiatiques, le CERSEC. Vous avez coordonné avec Laurent Coumel un numéro de la revue en ligne Politica consacré aux impacts environnementaux de la guerre en Ukraine. Et nous sommes en duplex depuis les locaux d'ici Pays d'Auvergne avec Adrien et Steve. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques de l'université Clermont-Auvergne. Vous avez publié Géopolitique de l'environnement en 2024 au PUF. Et votre précédent livre, Guerre et écologie, traitait de la façon dont les responsables de l'armée, alors en l'occurrence en France et aux États-Unis, appréhendent les questions environnementales, mais aussi les effets des guerres en termes de destruction, de pollution et de réchauffement climatique. Ce livre-là avait paru en 2022, l'année donc de l'invasion russe de tout le territoire ukrainien. Comment est-ce que vous avez suivi depuis les destructions opérées jour après jour ?
Je les ai suivis grâce à des rapports qui ont été publiés par de nombreuses organisations, des ONG, sur ces dommages et une littérature grise extrêmement abondante en fait qui existe aujourd'hui pour chiffrer ces dommages et les conséquences climatiques à long terme pour l'Ukraine, mais aussi pour le monde. Donc effectivement, c'est une guerre qui est monitorée de manière écologique, de manière assez inédite. Donc pour le chercheur, c'est quand même beaucoup de données à traiter. Et en même temps, c'est une bonne chose, puisque c'est effectivement quelque chose qui était complètement oublié dans les conflits précédents.
On peut commencer à évoquer déjà ce qu'on sait de ces destructions, ce qui se voit d'abord. Est-ce que beaucoup de forêts ont été détruites volontairement, comme le furent les Vosges lors de la guerre de 14, volontairement ou non, par des incendies immaîtrisables ?
Alors oui, les forêts ont été effectivement une cible particulièrement prisée par la Russie, à l'instar d'autres conflits auparavant. Moi, j'avais travaillé sur le Vietnam, par exemple, avec l'agent Orange, et c'est vrai que les forêts donc, qui sont des couverts végétaux qui servent à se cacher et à dissimuler des armes ou des troupes, font l'objet d'une attention particulière par les stratèges militaires, et la Russie a mis en place une stratégie de destruction extrêmement intensive des forêts sur le territoire ukrainien, renforcée, et c'est un peu l'ironie de la chose, par des épisodes de sécheresse aussi qui ont eu lieu en Ukraine, notamment en 2024, ce qui montre que le dérèglement climatique est à la fois aussi un accélérateur de destruction et aussi quelque chose qui est nourri par les destructions elles-mêmes. Donc il y a un effet aussi assez ironique dans ce lien entre climat, guerre et écologie.
Les feux de forêt causés par la sécheresse, mais que les pompiers ne peuvent pas, ne serait-ce qu'essayer d'éteindre, parce que la guerre rend trop dangereuse les interventions. La seule année 2024, plus de 92 000 hectares de forêt ont été détruits. C'était trois fois plus que l'année précédente, parce que l'été avait été particulièrement chaud et sec. En tout cas, ces forêts sont également détruites volontairement pour améliorer la visibilité des soldats.
Oh, absolument. Oui.
Il y a eu un combat de contre-batterie et des tirs d'artillerie sur cette région à l'aide de lance-roquettes. En conséquence, 300 hectares de forêt ont brûlé dans la zone. Là, c'était les positions des troupes russes. Vous pouvez voir ici les éclats d'obus qui ont coupé les arbres et les ont même complètement détruits ici, où se situait l'épicentre de l'explosion, selon moi. Le plus grand nombre de missiles lancés par les Russes en une nuit était, si je me souviens bien, d'environ 60.
Un inspecteur écologique qui parle des dégâts de la guerre sur une forêt dans les environs de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Il était rencontré par la chaîne Al Jazeera. Quels effets sur la faune, Adrien Estève? Est-ce que c'est, entre guillemets, facile à modéliser? Est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu précise de la façon dont des animaux, des espèces entières ont été anéantis?
C'est extrêmement difficile à modéliser, notamment puisque ce sont des impacts qui sont sur le temps long. On peut documenter la perte des espèces de manière immédiate, hein, c'est-à-dire par la disparition de ces espèces sur les 4 ans de conflit de ces zones-là. En revanche, les impacts sur la chaîne alimentaire, les impacts sur les ressources dont les espèces ont besoin pour survivre sur le long terme, sur les pollutions aussi qu'elles vont subir et les effets sanitaires que cela va avoir sur les populations d'oiseaux, par exemple, ou les mammifères. Ça, on va avoir besoin de beaucoup plus de temps pour l'évaluer, mais les conséquences, on le voit, sont déjà dramatiques.
Des espaces protégés aussi qui se sont retrouvés divisés par ce qu'on appelle la ligne de contact, y compris en plein cœur du parc national de Méotida dans l'oblast de Donetsk, avec ses populations de pélicans, de musaraignes, de belettes, d'araignées, d'aigrettes, de putois marbrés. On ne peut pas les administrer, ces parcs, quand la ligne de contact est en plein milieu. Est-ce que vous avez des échos sur ces espaces censés être protégés? Ce que deviennent les populations d'animaux?
On a assez peu d'échos, en tout cas des échos peut-être plus préoccupants qu'autre chose. Effectivement, l'Ukraine ne peut pas monitorer, comme elle le faisait auparavant, ces espaces-là qui sont proches des lignes de front, ou qui parfois touchent les lignes de front. Et on imagine bien qu'aujourd'hui, ce qui est la conséquence écologique de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est pas seulement la destruction volontaire par la Russie des infrastructures et des territoires ukrainiens, c'est aussi en fait l'abandon des politiques environnementales par le gouvernement ukrainien en raison de la guerre elle-même.
Alors il y a des employés municipaux, nationaux, des fonctionnaires qui s'évertuent à continuer à essayer à la fois d'observer, de protéger la faune. Ces employés du parc national des Limans de Tuzli, par exemple, qui recensent les dégâts déjà causés par la guerre sur la faune marine, cette fois en mer Noire.
De nombreux dauphins mouraient déjà en janvier 2022. J'ai découvert que dans la partie nord-ouest de la mer Noire, environ 15 navires et 10 sous-marins rôdaient près de notre parc, s'étendant de l'île aux serpents à toute la côte nord-ouest de la mer Noire. Il y avait des dauphins avec des brûlures, le dos rouge, ce qui est inhabituel. Et les experts bulgares nous ont dit que c'était l'effet des mines au phosphore qui explosaient et affectaient les dauphins. Nous avons vu diverses vidéos, notamment celle tournée sur la côte de Crimée, où certains étaient vivants, mais traumatisés et incapables de bouger. Ils ne pouvaient pas chercher de nourriture, ils étaient donc complètement inactifs et mouraient en quelques jours.
Des dauphins mis en danger par les bombes, mais aussi les pétroliers. Ces deux pétroliers russes pris dans une tempête en décembre 2023 dans le détroit de Kerch. L'un avait coulé et l'autre s'était brisé en deux en pleine mer. Il transportait au total 9200 tonnes de fuel, du fuel M100 qui est tellement lourd qu'il coule à pic. Puis il y a aussi tout ce qui se déverse en mer Noire depuis l'amont. Adrien Estève, le Dniepr, fleuve comparable au Rhône par son débit et sur lequel a été construite notamment la ville de Kherson, donc au sud de l'Ukraine, qui toujours aujourd'hui ciblé par les frappes et les drones russes. Il est très difficile d'y mener des recherches, mais est-ce qu'on sait dans quelle mesure ces sols et ces eaux sont pollués cette fois par les bombardements ?
Alors, ils sont pollués par les bombardements, puisque effectivement, cette zone est une zone très industrielle. C'est un cœur industriel de l'Ukraine. Et donc, la destruction systématique par la Russie des infrastructures industrielles et énergétiques de l'Ukraine, qui sont des raffineries, souvent qui sont des dépôts d'hydrocarbures, se provoque des déversements dans le Dniepr et donc la pollution de la mer Noire. On peut ajouter à cela aussi des accusations qui ont été proférées par le gouvernement ukrainien de pollution volontaire de la part de la Russie de plusieurs cours d'eau, dont le Dniepr, à des fins de contamination de la population ou tout simplement de destruction du territoire ukrainien volontaire.
Donc il y a eu des relevés de contamination. Les drones, quand ils s'écrasent au sol ou dans l'eau, quels sont les composants comme ça qui, tout d'un coup, sont pulvérisés et contaminent les sols ?
Alors les drones, c'est assez intéressant puisqu'effectivement la guerre par les drones qui est menée par la Russie comme par l'Ukraine depuis le début du conflit a fait baisser le nombre de munitions envoyées de part et d'autre, donc qui sont remplacées progressivement par des drones. Cela dit, ce que font les drones de nouveau par rapport aux munitions classiques, on pourrait dire, c'est que effectivement elles balancent de la pollution plastique aussi dans les sols. Ce sont des drones de très faible capacité technologique et qui se détruisent assez facilement dans les sols. Ils ont aussi des munitions qu'ils portent qui aussi elles aussi se dégradent, et aussi les drones finalement, c'est aussi un moyen d'augmenter la facture climatique de l'Ukraine, puisqu'il faut les produire. Ces drones, ils sont produits en masse. Et donc, effectivement, ça entraîne une pollution climatique beaucoup plus importante, peut-être, ces dernières années.
L'impact climatique, on va y venir, il a fait l'objet de calculs émanant beaucoup de données ukrainiennes, mais appuyés aussi par des organisations internationales. On va prendre le temps de poser à plat aussi les difficultés que pose un tel recensement en temps de guerre. Peut-être, Adrien Estève, je continue encore un petit peu avec vous, qui êtes l'observateur de tous les jours, en fait, de ce qui est en train de se passer en Ukraine depuis votre poste d'observation à Clermont-Ferrand et toutes les sources dont vous pouvez disposer. Je sais qu'il y a eu d'autres relevés du genre de ceux qui ont été faits à Kherson, dans l'avril, par exemple de Snihorivka, avec des relevés de niveau de pollution. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui en dire ? Qu'est-ce qu'ils disent de façon à peu près sûre, ces relevés-là ?
Ces relevés-là, ils sont, pour l'instant partiels déjà, ça il faut le dire, parce que effectivement l'accès au terrain n'est pas facile pour les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur ces questions. Le gouvernement ukrainien fait beaucoup, justement, on en parlera peut-être après, aussi dans le cadre d'efforts diplomatiques pour imposer à la Russie des réparations, fait beaucoup pour donner l'accès au terrain quand même à ces chercheurs. Aujourd'hui, on a surtout des données partielles et aussi on a beaucoup de données sur finalement la facture climatique plutôt que la facture écologique. Puisque la facture climatique, on peut l'estimer à travers des données. Par exemple, pour les drones, on parle de 82 millions de tonnes de CO2 aujourd'hui, rien que pour l'usage des drones. En général, on parle d'un conflit quand même, si vous voulez le chiffrer en termes climatiques globalement, de 237 millions de tonnes de CO2 sur les 4 ans de conflit. Ça, c'est des données qu'on peut avoir, puisqu'il s'agit de compter la logistique, de compter les forces employées de chaque côté. Les dommages écologiques, c'est quelque chose qui va prendre des années, j'insiste bien là-dessus. Hein. On a des relevés de contamination à l'instant T, mais malheureusement, aujourd'hui, j'hésite à vous avancer des chiffres parce qu'ils sont très inférieurs à la réalité.
En tout cas, ce qu'on peut aussi énoncer de façon sûre, c'est que l'état des sols a été modifié par la guerre des tranchées. Les sols ont été remués. Les terres, là encore, sont contaminées pour plusieurs décennies. La ville de Kherson compte de nombreuses usines électriques et entrepôts avec des composants chimiques que les usines d'Ukraine bombardées par la Russie ont en stock ou utilisent dans leur chaîne de production. Et là encore, ce sont des choses qui ont été déversées partout. D'ailleurs, est-ce que certains sites, peut-être que là-dessus, Marin Coudreau, vous aurez des éléments, est-ce que certains sites en Ukraine bombardés par la Russie seraient classés Céveso si l'Ukraine faisait partie de l'Union européenne ? Est-ce qu'on est dans ce niveau de dangerosité-là ? Est-ce que, Adrien Estève, là-dessus, vous avez des éléments ?
Alors sur la dangerosité, vous voulez dire de ce qui a été...
Des usines, vraiment des sites de production et de toutes les usines qui ont été bombardées ?
De toutes les unes côté bombardées, le niveau de dangerosité, c'est surtout la pollution de ce que contenaient ces usines. Donc, à vrai dire, des usines souvent qui étaient, encore une fois, j'ajoute, d'industries lourdes, de pétrochimiques, de lubrifiants. Enfin, il faut imaginer, en France, on a eu Lubrizol quand même à Reims, qui a montré l'étendue d'une pollution d'une usine de type Seveso sur une agglomération. Il faut imaginer qu'en Ukraine, il y a un Lubrizol toutes les semaines, voire tous les jours quasiment, en fonction des campagnes de bombardement. Donc, c'est quand même très, très substantiel. Et non seulement c'est de la dangerosité de pollution, mais on imagine que ce sont des sites qui sont explosifs aussi pour la population.
L'Ukraine, pays particulièrement industrialisé, la stratégie russe repose aussi sur la destruction de cette industrie ainsi que de celle de l'agriculture. Il s'agit de rendre les terres incultivables. C'est aussi un objectif économique de la guerre. Et à chaque fois qu'une ferme est bombardée, une terre agricole, eh bien, les éventuels produits utilisés se retrouvent directement dans les nappes phréatiques et les rivières. L'armée russe bombarde aussi les infrastructures d'approvisionnement électrique. On en a beaucoup parlé hier quand on a parlé des conséquences de la guerre sur la vie des Ukrainiens et la solidarité, y compris en pleine vague de froid intense. Il y a tout ce qui est pulvérisé littéralement et qui se retrouve dans les sols, sans compter les destructions qui inondent tout sur leur passage. Pulvérisation également du barrage de Kakhovka dans la nuit du 6 juin 2023.
J'ai amené un groupe électrogène et une pompe pour essayer d'assécher le rez-de-chaussée. La rivière s'est un peu retirée en dessous de la maison, donc je peux enfin commencer à pomper. La dernière crue, c'était en 85. Le niveau de la rivière était monté de 10-15 cm. Et là, c'est 6 mètres. Ces inondations, toute cette souffrance pour la population, c'est sûr à 150% que c'est un acte de guerre, c'est la faute des Russes. Ce n'est pas normal. Au barrage de Kakhovka, il y avait un stock de 150 tonnes de mazout qui s'est déversé dans le fleuve. Puis l'eau est passée sur des champs, ça a fait remonter une boue polluée qui s'est répandue partout. Et c'est tout ça qui a tué les poissons, à mon avis.
Vitaly, un habitant de Snigourivka, rencontré par Camille Magnard à l'époque. Et d'ailleurs, j'envoie les auditeurs et auditrices au reportage de la rédaction de vendredi dernier de Camille Magnard sur la guerre en Ukraine et ses effets au long cours. Alors, quand un barrage comme celui de Kakhovka rompt sous les bombes de l'adversaire, quand les digues cèdent, non seulement l'eau envahit et inonde tout, mais quoi avec elle, Marin Coudreau, que charrie cette eau déchaînée sur plus de 620 km2?
C'est des centaines de litres d'eau souillée, de pollution qui vont contaminer les terres en aval. Donc, pareil, on ne sait pas encore exactement quelles vont être les conséquences à long terme, mais ça risque de rendre les terres incultivables.
On parle de 150 tonnes d'huile. Ça représente environ 170 000 litres de l'huile de quoi ? Des hydrocarbures ? Qu'est-ce que c'est que ces tonnes d'huile qui se sont retrouvées dans les cours d'eau ?
Je ne sais pas exactement à quoi ce chiffre fait référence, mais il y a toutes les pollutions du réservoir qui avaient été accumulées et qui se sont déversées en aval. Donc, c'est des conséquences effectivement à long terme qu'on ne peut pas encore vraiment estimer.
Donc on a là fait un peu le tour de toutes les destructions, disons spectaculaires, en tout cas visibles. Il y a aussi toutes les situations plus normales qui ne peuvent pas être correctement contrôlées. Et c'est un énorme problème quand on parle par exemple de stockage de déchets d'élevage. Il y en a un qui a débordé en 2016 au sud de Bakhmout et ça a causé beaucoup de débats. Il y a aussi les mines souterraines du Donbass qui sont inondées. Les eaux ultra contaminées remontent à la surface et polluent les réserves d'eau souterraine et de surface. Maintenant, l'impact climatique, et tous les deux vous avez regardez avec beaucoup d'attention les chiffres qui sont donnés sur les estimations d'émissions de gaz à effet de serre estimées à plus de 311 millions de tonnes sur 4 ans. Marin Coudreau, je crois qu'Adrien Destef, vous avez donné une estimation un tout petit peu différente. Ça varie peut-être d'une source à l'autre. En tout cas, ce sont à peu près ces fourchettes de valeurs. De quoi on parle en fait quand on parle de l'impact climatique exactement, Marin Coudreau ?
Alors cette question climatique, c'est une tentative par les autorités ukrainiennes effectivement de corréler la guerre aux enjeux climatiques, et c'est plus de 300 millions de tonnes de CO2 d'émissions de gaz à effet de serre. Ça représente l'équivalent de plus de 180 pays de l'émission de gaz à effet de serre de plus de 180 pays annuels. Donc c'est colossal, et ça permet effectivement aux autorités ukrainiennes d'internationaliser le conflit. Et pour montrer que il y a autre chose derrière cette guerre en Ukraine qu'un simple guerre, il y a un conflit de
c'est vraiment une guerre de modèle, vous voulez dire, entre un pays, la Russie, sur un modèle encore très pétrolier,
pétro-État et l'Ukraine qui veut se diriger et qui veut s'orienter vers une transition énergétique sur le modèle européen. Donc c'est une guerre de valeurs aussi qui se joue sur ces questions environnementales.
Quand sont mesurés les effets et les émissions de gaz à effet de serre de cette guerre, on évoque à la fois les millions de tonnes de carburant utilisés par les deux armées, les quantités d'acier et de ciment commandées pour fortifier les lignes de front. Est-ce que on prend aussi en compte, Adrien Estève, par anticipation, ce que coûtera en émissions de carbone la reconstruction? Est-ce que dans ces chiffres qu'on nous donne, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'anticipation?
Oui, il y a une bonne dose d'anticipation. D'ailleurs, c'est aussi une nouveauté de ce conflit par rapport à d'autres que j'ai pu étudier, c'est qu'on s'intéresse aussi à la reconstruction et au coût climatique de la reconstruction. Et on parle là effectivement de production très intensive de béton, hein, de matière pour refaire des bâtiments, même pour, disons, améliorer les routes, reprendre tout ce qui a été détruit par le conflit. Et là, on est sur des émissions qui sont extrêmement importantes parce que elles sont de l'ordre de... Alors, les estimations que j'ai, moi, sont autour de 64 millions de tonnes de CO2, simplement pour reprendre les infrastructures, quelque chose qui va prendre en plus plusieurs années, comme vous l'imaginez. Et je crois qu'il n'inclut même pas, d'ailleurs, la dimension agricole du problème. C'est-à-dire qu'on est sur une vision très urbaine de la reconstruction.
Sur la reconstruction, donc par anticipation, ce sont cette fois des professeurs et des chercheurs de l'école d'économie de Kiev qui ont donné des chiffres. Là-dessus, Marin Coudreau, sur la méthodologie, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on sait, qui s'occupe de recenser officiellement les dommages environnementaux, les répertorier et avec quelle méthode?
Alors, le gouvernement ukrainien a créé une plateforme Ecozagroza, avec même une application pour que les citoyens puissent relever les dommages environnementaux autour d'eux.
En le faisant comment? Ils envoient des photos, ils envoient des alertes?
Je ne sais pas
alertes,
exactement, parce que j'ai pas téléchargé l'application. Mais en tout cas, ça permet aux citoyens d'être actifs dans ce processus de récolte d'informations. Et voilà, il n'y a pas que le gouvernement, il y a tout un tas d'ONG, il y a une société civile très dynamique qui s'est emparée de cette question. Rien que l'année dernière, il y a 3 films documentaires qui ont été tournés sur les questions des dégâts environnementaux liés à la guerre. Donc c'est une question qui intéresse beaucoup les jeunes. Voilà, tout le monde se préoccupe de ces questions-là et redécouvre même son héritage environnemental à travers les impacts de la guerre.
Dans quelle mesure, Adrien Estève, tous les chiffrages dont on dispose sont beaucoup basés encore sur des données ukrainiennes, y compris celles des institutions internationales ou des ONG que citait Marin Coudreau? Est-ce qu'elles-mêmes se servent des données fournies par l'Ukraine pour établir leur rapport?
Alors c'est une question importante, mais on peut le dire déjà qu'il n'y a pas que de l'utilisation directe de données ukrainiennes, absolument pas. Il y a beaucoup d'organismes qui fonctionnent de manière indépendante, mais qui fonctionnent de manière indépendante dans un cadre qui est toujours fixé par le gouvernement ukrainien, forcément, puisqu'on est dans une zone de guerre. Donc forcément, on peut pas aller partout, on peut pas mesurer tout ce qu'on veut. Donc il y a forcément une influence directe ou indirecte du gouvernement ukrainien. Maintenant, comme l'a souligné Marin Coudreau, on a une société civile très dynamique, on a des sources quand même qui sont relativement indépendantes. Donc on est sur des chiffres quand même qu'on peut estimer crédibles, en tout cas qui donnent un ordre de grandeur assez proche de la réalité.
Et les données en source ouverte, est-ce qu'on sait comment elles sont utilisées et lesquelles?
Alors, il y a plusieurs think tanks, hein, notamment dans les COP, qui relaient un peu ces travaux, qui insistent beaucoup sur la méthodologie et qui montrent que les sources ouvertes, ils les utilisent aussi, notamment les sources citoyennes et les sources des ONG locales. Mais bon, le dosage est toujours compliqué. On est encore dans une zone de guerre, hein, une nouvelle fois, donc c'est très compliqué cette comptabilité. C'est pour ça que la comptabilité écologique est encore plus compliqué à faire que la comptabilité climatique aujourd'hui, puisque vous imaginez bien que pour la biodiversité, pour les sols, pour les eaux, ça va prendre plusieurs années, ça va demander des études très poussées de manière indépendante.
Marin Coudreau, l'Ukraine collabore donc avec des institutions internationales, par exemple que le programme de l'ONU sur l'environnement a enquêté sur les conséquences de la destruction du barrage de Kakhovka. Est-ce qu'on sait comment? Est-ce que des gens sont allés sur place? Est-ce qu'ils ont pu accéder à ces zones inondées?
Alors oui, je crois qu'il y a une mission qui a été envoyée. Je ne sais pas exactement comment ils collaborent avec les autorités ukrainiennes, mais c'est sûr que c'est des forums importants, toutes ces organisations internationales, pour le gouvernement ukrainien. Il y a d'autres, il y a l'UICN aussi, il y a d'autres forums dans lesquels l'Ukraine défend une diplomatie environnementale qui est très opposée aux Russes.
Donc avec cette idée d'accumuler des rapports, des bases de données, des images satellitaires, des synthèses d'incidents et toutes ces données agrégées, confrontées, permettent d'établir un socle de faits, avec l'idée, Marin Coudreau, d'utiliser un jour toutes ces données et tous ces témoignages dans des actions de justice, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment l'objectif de cette récolte-là.
C'est l'objectif. Alors il y a un objectif premier qui est celui de médiatiser ce que nous ne voyons pas, de médiatiser à l'échelle internationale. Et puis après, oui, il y a l'idée que ça servira pour la reconstruction et pour demander réparation. Donc, même si, pour l'instant, les mécanismes juridiques à l'échelle internationale ne sont pas encore opérants pour cette question d'écocide.
Je vous invite tous à soutenir notre initiative présentée ici lors de la COP27, la création d'une plateforme mondiale pour évaluer l'impact des actions militaires sur le climat et l'environnement. Il ne peut y avoir de politique climatique efficace sans la paix sur Terre. La Russie doit faire taire les armes et ranger ses missiles, afin que le monde puisse enfin entendre ce que nous pouvons vraiment faire ensemble pour nous sauver de la catastrophe climatique.
Volodymyr Zelensky, dès la première année de la guerre, en novembre 2022, au moment de la COP27 sur l'impact des guerres sur le changement climatique, avec cette idée de l'Ukraine, que soit reconnu un écocide. Alors, elle n'est pas la seule à plaider pour que la Cour pénale internationale reconnaisse ce crime. Comment ses dirigeants ont-ils progressivement construit ce discours, Marin Coudreau? Comment s'y prend-elle l'Ukraine pour attirer l'attention sur ce sujet?
Oui, alors le terme d'écocide, il date des années 70, c'est Barry Weisberg, écocide, la guerre du Vietnam, mais il est utilisé désormais par certains pays, dont l'Ukraine, le Vietnam, qu'il reconnaît aussi dans sa juridiction.
Le Vanuatu aujourd'hui.
Le Vanuatu pour la question climatique aussi. Et donc ils se sont emparés de cette question pour essayer de faire reconnaître les destructions environnementales comme des crimes. Donc il y a toute une diplomatie qui s'opère auprès de la CPI notamment pour essayer d'intégrer ce principe d'écocide dans la juridiction internationale.
Car la CPI ne reconnaît pas encore l'écocide comme crime autonome dans son statut de Rome. Elle traite plutôt des dommages importants à l'environnement dans les crimes de guerre. Encore faut-il, je crois, Adrien Estève, que certaines conditions soient remplies. Lesquelles ?
Pour la reconnaissance d'un crime environnemental de guerre, la principale raison, c'est qu'il faut l'associer à d'autres crimes, effectivement. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui cause, des meurtres de population sur une grande échelle, des tueries, des situations, disons, qui vont impacter des humains. Et c'est peut-être ça la différence avec le concept d'écocide, c'est que les conventions de Genève ont une vision assez centrée sur les populations humaines, et donc on ne traite des crimes environnementaux que lorsqu'ils touchent les populations humaines. En fait, on élimine des dégâts environnementaux directement sur la biodiversité, sur les forêts et sur d'autres espaces qui, en fait, ne touchent pas forcément des humains, mais causent des dommages écologiques plus globaux.
Le barrage de Kakhovka, lui, quand il a été détruit, plus de 40 personnes sont mortes. L'Ukraine s'appuie aussi et surtout sur cette destruction-là dans son argumentaire. Est-ce qu'elle suggère à la CPI d'inclure l'écocide dans son statut de Rome ou d'interpréter la législation existante, Adrien Estève?
Elle a fait les deux, en réalité, elle fait les deux, puisque effectivement, les conventions de Genève et le statut de Rome permettent déjà de condamner la Russie pour ce qui s'est passé pour le barrage de Kakhovka. Mais en revanche, effectivement, ça ne couvre pas l'ensemble des destructions causées sur le territoire ukrainien. Il y a un effort quand même qui est fait pour l'Ukraine de raccrocher tous les dommages écologiques à des questions agricoles, économiques, humanitaires, pour que ça rentre bien dans le cadre des conventions de Genève. Mais effectivement, il restera toujours des effets sur la biodiversité, sur la nature ukrainienne qui devront être traités par le crime d'écocide.
L'Ukraine rappelle par exemple que la décision de la Cour internationale de justice distincte donc de la CPI a statué l'année dernière qu'un environnement propre, sain et durable était un droit humain au même titre que l'accès à l'eau. Donc les négociateurs avancent comme ça sur plusieurs tableaux. Les débats autour de la reconnaissance de l'écocide, me semble-t-il d'ailleurs, ceux qui sont portés par le Vanuatu par exemple, ne concernent que les situations de paix. Ce qui se passe en temps de guerre est réglementé par le droit de la guerre, y compris la protection de l'environnement.
Oui, absolument. Le droit de la guerre et du coup les conventions de Genève, hein, pour le dire clairement, est ce qui régit encore. D'ailleurs, même pour la France et les États-Unis, la doctrine de protection de l'environnement en situation de conflit. D'ailleurs, beaucoup de juristes proches des armées considèrent que c'est suffisant pour couvrir la plupart des dommages environnementaux. Mais ça fait depuis maintenant le Vietnam, comme l'a souligné Marin Coudreau, qu'on a des associations et des groupes de victimes qui défendent l'idée que l'écocide devrait être beaucoup plus large et devrait constituer un crime à part entière. Pour les situations de guerre également, parce que effectivement, les conventions de Genève ne seraient pas suffisantes pour couvrir tous les dommages.
Vous rappeliez, Marin Coudreau, que la législation ukrainienne dispose déjà d'une incrimination d'écocide dans son code pénal. Dans quel contexte l'a-t-elle introduite? Et ça change quoi dans la discussion qui nous anime ce matin de ces démarches pour faire reconnaître ce crime et surtout faire avancer sa demande de remboursement ou de compensation par la Russie?
Alors, ils l'ont introduit en 2001. Mais
donc c'est bien après Tchernobyl, on est sur
autre chose, puis de toute façon... Mais la Russie aussi a l'écocide dans sa juridiction, mais ça n'a jamais été utilisé, alors qu'il y a des actions en interne du côté ukrainien pour, je crois, 11 ou 12 crimes d'écocide développé ces dernières années depuis l'invasion de 2022.
Et à chaque fois, ça permet quoi? Ça permet d'enquêter, de remonter à la source de commandement. Par exemple, prenons le barrage de Kakhovka, sa destruction. Est-ce que ça permet de mener plus facilement des enquêtes pour savoir qui a donné l'ordre de le détruire, etc.?
Oui, parce qu'ils essayent d'incriminer des personnes très précises, des responsables russes de l'armée russe. Après, je ne sais pas exactement ce que ça ouvre comme possibilité en termes d'enquête
Peut-être qu'on peut demander à Adrien Estève si lui, il a des idées. Est-ce que ça appartient seulement aux services secrets de mener ces enquêtes-là et pas à la justice? Ou est-ce qu'au contraire, ce que la justice ukrainienne a déjà mis en place en la matière lui permet d'avancer plus vite?
Ça lui permet d'avancer plus vite. Moi, je pense surtout que ça lui permet de mobiliser plus de moyens, notamment internationaux, puisque le terme d'écocide fédère quand même aujourd'hui, y compris au Programme des Nations Unies pour l'environnement ou dans d'autres agences. Donc ça permet en fait de créer plus de moyens pour ces enquêtes, parce que le gouvernement ukrainien a besoin d'enquêteurs aussi internationaux pour ces crimes-là. Et ça ouvre aussi, bien sûr, un couloir diplomatique. On l'a déjà dit auparavant, mais bon... Ça permet de médiatiser la question de la recherche des écocides. Donc moi, je vois plutôt le côté politique, disons, de cette reconnaissance et des enquêtes qui sont menées, plutôt que le côté judiciaire plutôt légal de la question.
Une démarche politique aussi que celle de demander 37 milliards d'euros de compensation climatique au titre des émissions de CO2 provoquées par la guerre, faire cette demande auprès de la Russie. Est-ce qu'il est déjà arrivé dans l'histoire des guerres, Adrien Estève, qu'un État agresseur indemnise l'État agressé pour les dommages causés sur l'environnement en particulier ?
Non. La réponse est assez simple. Disons qu'en tout cas, il y a eu des démarches volontaires qui ont été entreprises par certains pays. On peut penser aux États-Unis et au Vietnam qui ont lancé quelques initiatives vraiment extrêmement éparses de dépollution sur certains sites, etc. On a quelques exemples comme cela, mais ce sont des démarches volontaires, souvent dans le cadre d'actions diplomatiques, de réconciliation ou d'autres mesures. En tout cas, il n'y a rien qui n'a été fait de manière systématique et systémique pour indemniser ou même voire pour réparer les dommages écologiques causés par une guerre.
Au Vietnam, les opérations de dépollution, par exemple, ont été menées essentiellement par le Vietnam lui-même, avec le soutien d'organisations internationales. Je ne sais pas dans quelle mesure les États-Unis y ont contribué, mais si c'est le cas, ça doit être vraiment rien du tout, parce que ça n'est jamais mentionné.
Ce n'est rien du tout.
Ouais, c'est vraiment rien du tout. D'accord. Donc, c'était même pas une question. En fait, on lui a même pas demandé. À Washington.
Alors, il y a eu des mobilisations, il y a eu des demandes, des pressions diplomatiques exercées par le gouvernement vietnamien, par les victimes vietnamiennes et même par les vétérans américains de la guerre du Vietnam qui avaient aussi souffert de pathologies. Donc, il y a eu beaucoup de pressions sur les États-Unis sur cette guerre pour la reconnaissance de l'écocide et la réparation. Malheureusement, ça n'aboutit qu'à des compensations pour les vétérans américains et à rien d'autre pour les victimes vietnamiennes ou pour la réparation du dommage écologique au Vietnam.
Les opérations de déminage également ont été menées par... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Marin Coudreau?
Non, mais surtout, ça s'est fait après coup, alors que là, dans le cas ukrainien, c'est en temps de guerre qu'on demande des réparations et qu'on monitore tous ces dégâts, et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est ce qui fait de...
C'est la première fois qu'une guerre est à ce point suivie dans ses conséquences sur l'environnement, d'après vous?
Ça, c'est certain. C'est vraiment la guerre la plus documentée pendant le cours de la guerre, et comme le disait Adrien Esteve, il y a une littérature grise qui est gigantesque déjà en 4 ans. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été produites.
Vous évoquiez l'un et l'autre, le Vietnam et la façon qu'ont eu les États-Unis de s'en désengager une fois la guerre terminée. Les opérations de dépollution ont été menées par le pays agressé. Les opérations de déminage aussi, et on sait combien le déminage est primordial, non seulement pour la sécurité des enfants en particulier et des habitants, mais aussi pour aller réparer ce qui a été endommagé, reconstruire ce qui doit l'être, et puis dépolluer également. En Ukraine, le déminage est encore vraiment très 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 loin d'être... De toute façon, les mines continuent à tomber et on essaye de déminer, mais c'est très difficile.
Dans une roquette, il peut y avoir plus de 300 mines. Une fois en vol, une partie de la roquette s'ouvre et les mines tombent par terre. Elles sont semées comme des graines. Et après la première pluie, elles s'enfoncent dans la terre ou elles tombent dans les feuilles et deviennent invisibles. En arrivant sur les territoires libérés, il y a une diversité de menaces. Des mines antipersonnelles, anti-chars, des munitions qui n'ont pas explosé, des mines surprises, des mines pièges. Chaque fois que nos gars avancent, ils se heurtent à des mines posées de manière vicieuse, comme des mines cachées sous les cadavres. Et ça ralentit énormément notre avancée.
Un des mineurs blessés par les mines d'un champ agricole, extrait d'un reportage pour France Info de Boris Loumagne et Yachar Fasilov. Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a déjà une aide internationale pour dépolluer certaines zones, à commencer par le plus important et qui ne concerne pas que l'environnement, mais les gens en particulier, les enfants? Donc le déminage, est-ce que ça existe, Marin Coudreau, cette aide déjà pour, comme vous le disiez tout à l'heure, presque en direct, alors que la guerre sévit toujours et tous les jours, est-ce que ce... Il y a déjà quelque chose d'entrepris.
Alors, c'est énorme, les mines, parce que c'est 26% du territoire qui est potentiellement contaminé par les mines. Donc, je pense qu'il doit y avoir des aides internationales, mais sur une très grande partie du territoire, c'est pas accessible. Donc, ce sera pour le temps de paix, cette question de déminage, et ça prendra des années, et certains disent même des décennies. Donc c'est voilà, le paradoxe, c'est que ces mines, ces terrains minés produisent ce qu'on appelle maintenant le war wilding, c'est des zones où il y a plus de, puisqu'elles sont désertées, il y a plus de pression anthropique, et du coup il y a un réensauvagement de ces zones. Et donc les écologistes parlent beaucoup de savoir de ce qu'on va faire de ces zones, et si on peut pas les remettre en zone de conservation, plutôt que de les rendre à l'agriculture intensive.
Une fois qu'on les aura déminés, bien sûr, parce que les animaux aussi peuvent tomber sur une mine. Adrien Esteve, à ce sujet, est-ce que vous avez aussi des éléments, et même sur une forme de dépollution presque en direct, à chaque fois qu'un endroit est abîmé, endommagé, est-ce que certains en Ukraine se précipitent pour tenter de sauver ce qu'il y a à sauver ?
Aujourd'hui, je pense que malheureusement, il y a d'autres priorités, hein, quand on libère un territoire ou quand on est en Ukraine aujourd'hui pour... que de dépolluer, qui est quelque chose de très long terme, hein, ou de déminer. On démine parce que l'armée doit avancer, donc on démine pour libérer le passage. Mais je suis d'accord avec Marin Coudreau, c'est extrêmement minime pour l'instant. Les initiatives internationales pour le déminage sont assez parcellaires, et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de campagne de grande ampleur de déminage ou de dépollution qui menait en Ukraine de manière systématique.
Le déminage, un sujet majeur en Ukraine d'ores et déjà. L'Ukraine a nommé une ambassadrice pour le déminage humanitaire, et ce n'est autre que la chanteuse ukrainienne Jerry Hale. There is an obelisk, I'm still not dead, I'm still not there,
children on the wall, they would see you crawl. Give your mom a call. The reason people hate is that afraid to fade. But law is fair, no shade, no shade. The reason people lose, cause the law is the law. From high to low, the law, the art.
La chanteuse ukrainienne Jerry Hale, nommée ambassadrice pour le déminage humanitaire. Cette chanson date de l'année dernière, Dradada, ça veut dire la terre. Vous écoutez Culture Monde, c'est le troisième épisode de notre série sur l'Ukraine, une nation transformée par la guerre. Aujourd'hui, ce que la guerre fait à l'environnement, un préjudice durable. D'autant que l'Ukraine est un pays très industriel, on le disait, et très nucléarisé aussi. Le nucléaire civil utilisé comme une arme de guerre par la Russie et qui pose un risque majeur.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le sarcophage de Tchernobyl. Il y a un peu plus d'un an, en 2025, Volodymyr Zelensky annonçait qu'un drone russe avait frappé dans la nuit l'arche de confinement placée autour du réacteur accidenté de Tchernobyl et l'engin l'a percé. Que ce soit sur le site de Tchernobyl ou dans les 15, auprès des 15 réacteurs en fonction répartis sur 4 centrales, le parc nucléaire ukrainien pose un risque environnemental majeur pour les Ukrainiens d'abord. Bonjour Tatiana Kaspersky.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée à l'université Södertörn de Stockholm, d'où vous êtes en direct avec nous. D'abord, plus en détail, comment la frappe russe a endommagé, non pas le réacteur de Tchernobyl en tant que tel, mais l'arche de confinement posée autour du réacteur en 2016?
Il faut se souvenir qu'en fait, il y avait déjà une enceinte protectrice qui a été construite à la hâte par les Soviétiques quelques mois après l'Occident.
Mais, de 86. Donc,
exactement. Mais ce sarcophage, comme on l'appelait, n'était pas ne protégeait suffisamment bien la centrale au long terme. Donc, on a construit au prix de 2 milliards d'euros une nouvelle arche de confinement. Et donc, son but était de protéger tout le site et de pouvoir en fait désassembler tous les restes du réacteur de l'ancien sarcophage. Pour gérer les déchets après. Mais donc ce drone qui a endommagé cette arche de confinement a surtout endommagé son étanchéité. Donc la centrale ne pourra plus fonctionner, l'arche ne pourra plus fonctionner comme elle devait pour protéger donc l'environnement des fuites éventuelles pendant 100 ans.
Et depuis, est-ce qu'elle a été réparée? Voilà, il faudra réparer, mais rien n'a été entrepris pour l'instant depuis la frappe de 2025.
Non, parce que c'est des réparations extrêmement coûteuses. Donc, il faudra encore trouver des moyens et donc réfléchir aussi à comment la réparer.
Alors, dans quel état aujourd'hui se trouve cette fois ce qu'on appelle la zone d'exclusion de Tchernobyl, 2200 km² autour du réacteur accidenté que l'armée russe a occupé pendant 5 semaines au tout début de la guerre en Ukraine? Aujourd'hui, elle ressemble à quoi cette zone d'exclusion dont par ailleurs plusieurs récits racontent comment la vie avait repris ses droits, la nature avait repris ses droits ces dernières années avec d'immenses arbres aux racines entremêlées, une faune également très riche. Aujourd'hui, à quoi ressemble-t-elle?
Donc c'est vrai qu'avant la guerre, on parlait de ce retour de la vie sauvage dans la zone, mais aussi le retour des touristes. Le site est devenu un lieu touristique très important, surtout après la série de HBO Tchernobyl. Mais tout ça, c'est terminé maintenant. La zone donc a été occupée, non seulement occupée, elle a été aussi pillée par les troupes russes qui ont quitté un mois après. Et la zone a aussi été minée. Je sais que vous avez parlé tout à l'heure de ce problème de minage des territoires ukrainiens. Donc ce problème existe aussi dans la zone, ce qui quand même donc rend l'accès à la zone extrêmement difficile. Ça prendra. La zone n'est pas encore déminée, ça prendra encore beaucoup de temps pour la déminer, pour faire revenir des touristes, mais surtout pour laisser le personnel travailler tranquillement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'installations de gestion de déchets, de combustibles usés, et aussi toutes les installations qui sont liées à la centrale de Tchernobyl qui doivent continuer à fonctionner. Mais pour l'instant, tout est assez calme. Le travail a repris petit à petit, mais la zone reste quand même inaccessible pour les gens ordinaires.
Et dans cette zone d'exclusion de Tchernobyl se trouvent de nombreux laboratoires. Ils ont été pillés pendant les 5 semaines d'occupation de l'armée russe. Vous parlez de circulation illicite d'échantillons radioactifs dans un article que vous avez publié pour la revue en ligne Politica. Et c'est difficile d'en savoir plus sur ces échantillons. Alors pour se diriger cette fois à 700 km au sud-est de Tchernobyl, la centrale nucléaire de Zaporijjia, sur les bords du Dniepr, elle est occupée toujours cette fois par les forces russes depuis le 3 mars 2022. Ces 6 réacteurs sont à l'arrêt, mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de son état, de l'usage que font les Russes de ces bâtiments et de ces alentours?
La centrale de Zaporijjia reste dans un état extrêmement préoccupant du point de vue de sûreté, de sécurité nucléaire. Premièrement, même si ces réacteurs sont à l'arrêt, la centrale a besoin d'alimentation en électricité, et parce que il y a le combustible frais dans les réacteurs qui doit être refroidi. Il y a aussi un stockage de combustible usé aussi bien dans des réacteurs, mais il y a une centrale en stockage de combustible usé à part. Donc on sait que la centrale continue à être bombardée continuellement, et aussi les troupes russes ont déployé les lanceurs de roquettes sur la centrale, donc l'utilise un peu comme une rampe de lancement des roquettes. Et donc tout ça, c'est extrêmement préoccupant. Et la centrale est régulièrement déconnectée du réseau électrique parce que les lignes électriques sont endommagées par ces activités militaires. Et donc elle se retrouve régulièrement dépendante des
générateurs.
Générateurs, exactement. Et au mois de septembre, on a eu presque un mois... pendant un mois, la centrale était donc déconnectée du réseau, et c'était un moment extrêmement préoccupant. Il y avait des rumeurs qu'en fait, pas seulement des rumeurs, il y avait des indices aussi que les autorités russes pensent à reconnecter la centrale au réseau électrique russe, mais ça s'est pas fait. Finalement, la ligne électrique a été réparée, et je pense que l'Agence internationale d'énergie atomique a dû faire beaucoup de pression et de négociations pour permettre donc cette réparation et contenir un peu les risques
avec ce cessez-le-feu local temporaire négocié pour pouvoir réparer les lignes électriques, parce qu'une centrale électrique, une centrale nucléaire sans électricité, le danger est grand de voir les réacteurs fusionner, tout simplement, puisque il faut, même si les réacteurs sont à l'arrêt dans cette centrale de Zaporijjia, il faut quand même refroidir, c'est ça, les équipements, refroidir les réacteurs. Et pour refroidir une centrale, il faut de l'eau, mais aussi de l'électricité.
Exactement. Mmh. Et il y a aussi le problème de l'eau, parce que comme vous le savez, le barrage de Kakhovka a été explosé en juin 2023. Et donc, le réservoir de Kakhovka était le principal lieu de la réserve d'eau pour le refroidissement. Donc ça, même si on peut mettre en place des solutions temporaires, c'est quand, ça reste quand même aussi une situation préoccupante de ce point de vue.
Pour les autres centrales ou sites de stockage des déchets nucléaires aussi, Tatiana Kaspersky, y compris d'ailleurs dans les régions occupées depuis 2014, dans quel état, parce qu'il y en a des stockages de déchets nucléaires dans ces régions de l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, dans quel état sont-ils aujourd'hui, avec quel niveau de protection?
Il y a une très grande infrastructure nucléaire dans le pays, parce que c'est un pays aussi qui fait de l'extraction de l'uranium. Donc, dans tout le pays, il y a des sites, différents types de sites de déchets, et qui sont dans des situations différentes en fonction de qui contrôle le territoire. Sur les territoires qui sont contrôlés par les troupes russes, la situation est vraiment assez terrible, surtout dans les régions de Lugansk et de Donetsk qui sont occupées depuis 2014. Donc il y a des sites de déchets, par exemple des mines dans lesquelles il y a des déchets radioactifs dont on a arrêté d'évacuer l'eau et qui sont inondés. Donc la contamination des eaux souterraines par la radioactivité. Il y a aussi dans les sites d'extraction d'uranium, de production de concentré d'uranium dans l'Ukraine centrale, donc où il y a des sites abandonnés avec les déchets de cette production de l'uranium, qui sont sous contrôle ukrainien, mais qui n'en peuvent pas être gérés correctement pendant la guerre. Donc il y a aussi le risque que ces déchets se répandent dans l'environnement. Et puis il y a aussi ce risque, il y a des missiles qui survolent tout le territoire de l'Ukraine. Il y a déjà eu des cas où les missiles sont atterris près des centrales qui sont toujours en opération, comme par exemple la centrale de l'Ukraine de Sud. Et donc il y a aussi des frappes, des stockages de déchets nucléaires dans d'autres territoires, mais il s'agit essentiellement des déchets de la recherche ou de la médecine. Donc, ce n'est pas des déchets aussi toxiques que le combustible nucléaire usé.
Juste pour conclure, Tatiana Kaspersky, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, juste pour savoir si la Russie fait du nucléaire ukrainien une arme de guerre, est-ce que ça transparaît, si ce n'est dans les discours de Vladimir Poutine, mais peut-être dans les documents du KGB ou dans la doctrine militaire russe?
On l'a pas vu vraiment dans le document de maintenant, mais les documents soviétiques de l'époque soviétique suggèrent qu'effectivement c'est une stratégie tout à fait délibérée. C'est une stratégie de terrorisme nucléaire et avec cette idée de faire peur, de menacer les pays qui soutiennent l'Ukraine dans cette guerre pour les dissuader à aider le pays qui essaye de résister la Russie.
Avec des manuels militaires qui datent de la fin des années 80 que vous citez dans votre article et qui mentionnaient ces manuels, la possibilité d'utiliser les centrales nucléaires civiles dans les conflits. Merci beaucoup Tatiana Kaspersky d'avoir été avec nous. Vous êtes chercheuse associée à l'université Södertörn de Stockholm et vous avez publié pour la revue Politica, coordonnée par Marin Coudreau et Laurent Coumel, l'article intitulé « L'atome pacifique ukrainien et la guerre, environnement et sécurité en question ». Merci beaucoup. Je remercie aussi nos invités Marin Coudreau, je viens de redonner les références de cette revue Politica que vous avez coordonnée, et Adrien et Steve en duplex depuis les locaux d'ici Pays d'Auvergne. Je salue Benoît Allard qui était avec vous. Et je rappelle, Adrien et Steve, les références de votre livre « Géopolitique de l'environnement », c'est en 2024, mais aussi « Guerre et écologie », deux ans plus tôt, et tous les deux aux éditions des PUF. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
C'est une autre conséquence de l'invasion russe de l'Ukraine, Catherine. De plus en plus d'Africains sont enrôlés dans les troupes russes.
Et hier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé sa profonde gratitude envers Vladimir Poutine pour avoir permis le retour de 17 Sud-Africains, rapporte le Moscow Times et le quotidien sud-africain Mail and Guardian. Sauf que ces hommes, retrouvés dans le Donbass, ont été attirés en Russie sous de faux prétextes, explique la BBC, sous la promesse d'emploi dans la sécurité et sous l'influence aussi de la fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Doudou Zile, Zuma Sambudla est accusée d'avoir facilité le recrutement de ces hommes sud-africains et elle a dû démissionner du Parlement sud-africain, rapporte Business Insider Africa et le Mail and Guardian. Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa cinquième année, l'Afrique apparaît comme l'un des continents les plus touchés en dehors de la zone de guerre immédiate, alerte le quotidien kényan The Star et la revue The East African. Plus de 1400 Africains combattent pour la Russie. Envoyés en première ligne, précise le journal kényan The Star, de la chair à canon, résume le quotidien britannique The Telegraph et la chaîne américaine CNN qui font voir des images insoutenables.
What is your name?
Francis.
This disturbing video appears to show an African recruit in the Russian army with a landmine strapped to his chest.
Une vidéo censée montrer les préparatifs d'une attaque met en scène un Africain, Francis, recruté par l'armée russe, être utilisé comme une bombe humaine. Il a une mine attachée à la poitrine, décrit un journaliste de CNN. Ce soldat africain essuie des insultes racistes avant d'être forcé, sous la menace d'une arme, de courir à travers un no man's land pour cibler des positions ukrainiennes. Un homme dit en russe que cet Africain sert, je cite, d'ouvre-boîte pour pénétrer dans un bunker ennemi. Le front en Ukraine, un piège mortel, souligne le quotidien The Star, publié à Nairobi. Le Kenya tire la sonnette d'alarme, titre également Jeune Afrique, car plus d'un millier de Kenyans ont été recrutés pour combattre dans l'armée russe, ajoute la chaîne télévisée Citizen TV Kenya.
The Ministry of Interior is tonight facing intense pressure from members of the National Assembly.
Le ministre de l'Intérieur est confronté à une forte pression de la part des parlementaires qui réclament l'arrestation et la poursuite de fonctionnaires au Kenya soupçonnés d'avoir facilité l'envoi de Kenyans en Russie pour combattre en Ukraine, explique le présentateur du JT de Citizen TV Kenya. Un rapport des services de renseignement a révélé que des agents de l'immigration au Kenya et de l'Agence nationale pour l'emploi ont joué un rôle clé dans ce recrutement, veillant à ce que les Kenyans ne soient pas interceptés à l'aéroport international de Jomo Kenyatta à Nairobi, sans compter le rôle de l'ambassade russe à Nairobi et de l'ambassade du Kenya en Russie, rapporte Citizen TV Kenya, si bien que des députés parlent de trafic d'êtres humains qui passent aussi par la Turquie, Abu Dhabi, l'Ouganda, la RDC et l'Afrique du Sud. La Russie ratisse l'Afrique pour combler ses pertes humaines en Ukraine, analyse Jeune Afrique, carte à l'appui. L'Égypte fournit le plus de combattants, le Cameroun, le Kenya, le Ghana, la Gambie, le Mali aussi. Et nombre de ces recrues, qui cherchent désespérément un moyen de gagner de l'argent, note le Guardian, deviennent la proie de fausses annonces sur les réseaux sociaux, d'influenceurs transformés en rabatteurs sur le sol africain comme en Russie. J'en ai parlé ici même déjà le mois dernier. Sans compter, ajoute le quotidien kényan The Star, le média éthiopien The Reporter, ainsi que le Wall Street Journal, plus d'un millier de femmes africaines. En relais de force, cette fois, pour les fort de guerre russe. Des Éthiopiennes, des Tanzaniennes, des Maliennes, des Burkinabés, des Congolaises notamment, se retrouvent à assembler des drones dans la région russe du Tatarstan, à un millier de kilomètres à l'est de Moscou, dans le cadre du programme Alabuga Start. Alors qu'elles pensaient suivre en Russie des formations dans l'hôtellerie ou la restauration, ces jeunes Africaines de 18-22 ans travaillent jusqu'à 12 heures par jour sous une surveillance constante pour fabriquer des drones et manipuler des produits chimiques, parfois sans équipement, comme l'explique VOA et AP.
Les campagnes de désinformation russes ne s'arrêtent pas là.
Une fuite de données d'un millier de pages en russe donne un aperçu inédit des opérations d'influence russe élaborées depuis Saint-Pétersbourg et déployées ensuite dans une trentaine de pays à travers l'Afrique et l'Amérique latine notamment. C'est un réseau tentaculaire de spin doctors, de spécialistes des relations publiques, d'experts des campagnes sur les réseaux sociaux que nous font découvrir l'hebdomadaire sur d'Africains The Continent et le collectif de journalistes Forbidden Stories. Ce réseau russe, la compagnie, cherche à remodeler l'espace africain avec la création d'une ceinture de régimes amis de la Fédération de Russie. Et pour cela, il faut saper l'image des pays occidentaux, exploiter le ressentiment envers les anciennes puissances coloniales et leurs alliés, notamment la France, explique Forbidden Stories. Territories et cette stratégie, développée notamment par des anciens du groupe Wagner, s'est concrétisée en 2023 par la création de l'Alliance économique du Sahel qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger avec des juntes au pouvoir dans ces trois pays. Et rien qu'au Mali, notre jeune Afrique, l'alliance militaire russe de Wagner à Africa Corps a coûté près d'1 milliard de dollars au pays.
Merci beaucoup Catherine Dutu.